Vous êtes sur Radio B, les bonnes ondes, 90.0, dans l'émission Musique au pluriel, animée par Bruno Point et Paul Turchet. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à trois compositrices qui ont marqué de leur forte personnalité et de la beauté de leurs œuvres la musique du 19e siècle et du début du 20e. Force est de constater que la place des femmes dans la création musicale est très faible. Si en effet la pratique musicale par la femme dans l'espace privé était conçue comme une distraction, comme une sorte d'ornement, ajoutant du charme à la jeune fille de bonne famille, puis à la femme au foyer, la femme était exclue de la pratique publique de l'art musical. La légende voit en Sappho, au 7e siècle avant Jésus-Christ, la première compositrice, et au Moyen-Âge, les ensembles qui pratiquent la musique excluaient les femmes, et les rares exceptions notables concernaient notamment les moniales, telles qu'Hildegard von Bingen, dont la pratique musicale n'était que des enclaves au sein d'institutions religieuses, les femmes étant exclues de la production musicale au sein des églises. Cette quasi-exclusion de la place publique explique évidemment, et par voie de conséquence, la méconnaissance de leurs compositions. Il n'est que de rares exceptions dans l'Occident, des XIIe et XIIIe siècles, où l'on retrouve en dehors du cadre des communautés religieuses des premières compositrices de musique profane ou sacrée, les Trobérites, autrement dit troubadouresses du sud de la France, issues de la noblesse. Au XVIe siècle, Magdalena Casulana est la première compositrice dont les œuvres sont publiées et imprimées, et dédiées à Isabelle de Médicis, avec cette profession de foi tout à fait remarquable. « Je veux montrer au monde, autant que je le peux dans cette profession de musicienne, l'erreur que commettent les hommes en pensant qu'eux seuls possèdent les dons d'intelligence et que de tels dons ne sont jamais donnés aux femmes. » Voilà qui est bien dit. Nous allons maintenant rendre hommage à trois compositrices du XIXe siècle, hommage qui pourra d'ailleurs être suivi d'autres émissions de même nature, qui sont Clara Schumann, née Clara Wieck, Marie Jaël, née Trautmann, et Lili Boulanger.
Tout d'abord donc Clara Wieck. Clara Wieck, son père, Friedrich Wieck, était un grand professeur de piano, facteur de piano et surtout magasin de location de piano. Mais c'était d'abord un très grand professeur. Clara Wieck deviendra, nous le verrons, Clara Schumann. Elle va épouser le compositeur, pianiste aussi, Robert Schumann. Qui fut Clara ? Clara fut la fille de ce professeur de piano qui a tout de suite senti l'immense don de sa fille pour cet instrument et pour la musique et qui, il faut bien le dire, l'a beaucoup poussée. On va trouver très fréquemment chez les artistes, chez les femmes artistes, un environnement qui les contraint. Soit la jeune fille a le droit de faire du piano chez elle, mais pas le droit de se produire, soit elle a le droit toujours de faire du piano chez elle, mais pas le droit de composer. Avec Clara, il faut reconnaître que ce n'est pas du tout le cas. Son père avait une immense ambition pour elle, probablement parce qu'il se réalisait en tant que musicien, dans la personne de sa fille, vu son immense talent, et il l'a beaucoup formée, beaucoup poussée. Clara, d'ailleurs, en épousant Schumann, trouvera aussi un soutien, même si on peut dire, sans exagérer, qu'elle aura plus soutenu son mari que lui ne l'aura fait, mais jamais il ne l'a entravée. C'est plutôt sa condition de femme qui aurait rendu sa vie difficile. Mais néanmoins, ce fut une immense pianiste, tout le monde l'a reconnue. À l'époque, notamment Liszt, Paganini, Liszt, nous avons fait une émission et nous avons vu que c'était un immense pianiste. Donc Liszt avait reconnu le talent de Clara Wieck. Chopin a adoré voir ses œuvres jouées par elle. Mendelssohn la faisait jouer, nous en parlerons. Donc commençons par écouter sa première œuvre à notre programme, puisque aujourd'hui nous allons parler d'elle, de sa vie et de ses compositions. Tout d'abord, un prélude et fugue. On a pu entendre en écoutant cette œuvre, ce prélude et fugue, qui bien évidemment rappelle Bach, la solide maîtrise musicale, la solide maîtrise de l'harmonie et du contrepoint de Clara, qui avait donc été largement et très bien formée par son père, le professeur Friedrich Wieck. Situons Situons cette époque extrêmement riche. Clara est née en 1819. Elle s'éteindra en 1896 à 77 ans. Autour d'elle, il y a bien évidemment Schumann. Lui, né plus une dizaine d'années avant, en 1810, qui mourra jeune en 1856. Et puis, dans les principaux personnages musicaux de leur vie, il y aura un petit peu Liszt. Clara n'aimait pas trop l'outrance, la manière de Liszt, qui était peut-être quelqu'un de trop séduisant et de trop brillant pour elle. Elle préférait les poètes. Elle a beaucoup aimé Mendelssohn qui était le chef d'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, là où elle résidait, qui a apporté d'ailleurs la culture musicale dans cette ville, avec notamment la reprise des baroques et de Bach. Et puis elle a beaucoup aimé, nous y viendrons, Brahms, qui a même habité chez le couple Schumann. Clara fut une pianiste extraordinaire. Elle a fait 1300 représentations au cours de sa vie. Elle a parcouru l'Europe. Son père l'emmenait. Et son père l'avait d'ailleurs emmenée faire une très grande tournée pour qu'elle n'épouse pas Robert Schumann. Robert Schumann était aussi l'élève et vivait dans la maison des Wieck, l'élève de Friedrich Wieck, donc. Et il est rapidement tombé amoureux de Clara lorsqu'elle est devenue une jeune fille, puisqu'ils avaient 10 ans de différence. Et à ce moment-là, son père, qui voulait la protéger, était très hostile à ce mariage parce qu'il voyait le caractère complexe et dépressif de Robert Schumann et il avait peur qu'il ne l'entretienne pas et qu'elle ne puisse pas vivre sa carrière de musicienne. Écoutons maintenant, néanmoins, en parlant de Schumann, des variations écrites par Clara sur un thème de Schumann. Thank you. Robert et Clara se marient en 1840 après un procès retentissant avec Friedrich, son père, qui ne voulait pas qu'elle épouse ce compositeur que, probablement, avec un peu de nez, Friedrich considérait comme quelqu'un de difficile et d'instable. Toujours est-il que leur mariage fut heureux et qu'ils eurent 8 enfants, ce qui laisse à penser l'intensité, la volonté, l'opiniâtreté de cette femme qui sera une mère de famille, 8 enfants, l'épouse d'un compositeur complexe, qu'elle a protégé beaucoup, qui aura été une très très grande pianiste, une des plus grandes du 19e. Elle jouait notamment les concertos de Beethoven, ce qui nous permet de comprendre qu'elle n'était pas une pianiste alanguie à l'image d'une jeune fille apeurée. Au contraire, elle était très volontaire et elle était reconnue comme telle par les plus grands musiciens de son temps. Et elle a été une grande compositrice, elle nous a laissé beaucoup d'œuvres. Elle aura vécu avec Schumann une vie intense et ils tiendront un journal tous les deux, avec cette particularité de le tenir chacun une semaine, où seront notées à la fois les choses les plus banales de la vie et puis des moments de musique partagés. Malheureusement, Schumann mourra très tôt puisqu'il s'éteint en 1856, c'est-à-dire très jeune à 46 ans, tandis que Clara vivra jusqu'à 77 ans. Clara aura probablement une histoire d'amour, en tout cas une histoire affective avec Brahms, qui était aussi un grand ami de Schumann, et tous les deux étaient très proches musicalement. Ils ont eu un très grand courrier, très abondant, mais ils l'ont détruit, ce qui nous laisse à penser que leur lien était profond. Écoutons maintenant un court extrait du concerto de Clara Wieck, de Clara Schumann, en la mineur, même tonalité que celui de son époux Robert.
Marie-Jaël, de son nom de jeune fille Trautmann, née en 1846 et décède en 1925. Elle a eu la chance d'avoir une mère qui a organisé ses études de piano et ses concerts. Elle est auditionnée publiquement très jeune en 1855. Elle est ensuite présentée à de grands compositeurs, virtuoses, professeurs, entre au Conservatoire de Paris en 1862 et obtient un premier prix de piano après 4 mois de cours. Elle se produit dans 150 concerts environ en Allemagne, France, Angleterre, Suisse et épouse en 1860 le célèbre pianiste très connu à l'époque, Alfred Jaël, qui décédera en 1882. Alfred est élève de Czerny et en se mariant avec lui, elle va rencontrer ses amis, Brahms, Nikolai Rubinstein, surtout Liszt, avec qui elle sera très liée, Camille Saint-Saëns suivra des cours de composition avec César Franck, et vous voyez la richesse des rencontres qu'elle a pu faire. Grande concertiste, sa création musicale est considérable, principalement consacrée au piano, bien sûr beaucoup, mais également 2 concertis pour piano et orchestre, des leaders, trios, sonates pour violon et piano, violoncelle, psaumes, etc. Une œuvre considérable. Nous allons écouter l'une de ses pièces pour piano, intitulée « Feuillet d'album » qu'elle a dédiée à son époux, Alfred Jaël. Thank you. Marie-Jaël était une femme souvent excessive et très souvent emportée, à l'imagination foisonnante et qui voit une passion sans limite et absolue à son art. Voilà d'ailleurs ce qu'elle écrit. « Ce n'est pas de l'amour, c'est de la frénésie que j'ai pour mon art. Cette passion renverse tous les obstacles. » Et elle ajoute « Parfois je me fais peur, l'excès de mes sentiments m'effraie. Je me demande que deviendrais-je si cette lave qui me fait trembler lorsqu'elle est endiguée venait à briser les liens qui l'enserrent, si elle devenait torrent et s'érigeait en maître. Ah, je suis faible, puisque j'ai peur de moi, mais il est une chose plus dangereuse encore que de se craindre, c'est de ne pas se connaître. » Nous allons écouter maintenant la valse mélancolique numéro 1, mélancolique et pleine d'inventions mélodiques. Marie-Jaël va créer une méthode de piano qui s'oppose à la mécanisation des doigts, à la répétition musculaire incessante des exercices pour viser la maîtrise mentale du jeu. Et c'est en écoutant jouer Franz Liszt qu'elle entreprend l'élaboration de sa méthode d'enseignement du piano. Elle suit des cours de psychologie à la Sorbonne, collabore à diverses expériences en hôpital psychiatrique, avec un élève de Charcot, mène une série d'expériences en appliquant les doigts ancrés sur des claviers en carton. Son idée maîtresse est que les lignes papillaires, autrement dit les empreintes digitales, doivent former des enchaînements harmonieux en relation avec l'harmonie du toucher et du rendu sonore. En résumé, sa méthode consiste à se forger une image mentale afin de faire de la main un élément interactif avec la pensée au-delà du piano, et c'est ce qu'elle découvrait lorsqu'elle écoutait Liszt. Elle écrit d'ailleurs « La conscience vague que nous avons des mouvements réalisés par nos doigts doit être remplacée par une conscience intégrale. » Nous allons écouter un extrait de son premier concerto pour piano et orchestre, une œuvre forte, puissante, riche, dans laquelle vous découvrirez sans doute de réelles influences de Liszt pour la virtuosité pianistique, son intensité, et aussi de Brahms par la puissance et la richesse et la densité de l'orchestration. Thank you.
Nous voici donc à la fin du XIXe siècle et nous entrons dans le XXe siècle. Nous allons parler des sœurs Boulanger, de Nadia et de Lily. Nous parlerons de Lily qui fut une grande compositrice. Mais parlons aussi de sa sœur que nous avons déjà rencontrée. Nadia était une très grande professeure. Elle a arrêté la composition au décès de sa sœur, se jugeant insuffisante et n'ayant pas le génie de sa sœur. Mais elle fut, par contre, dans tout le XXe siècle, puisqu'elle est décédée en 1979, une très grande professeure qui eut quantité d'élèves marquants. Elle a eu des très grands pianistes et chefs d'orchestre, par exemple Igor Markevitch, ni plus ni moins que Daniel Barenboim, mais aussi des personnalités qui sortaient du champ de la musique classique. Elle aura eu comme élève Michel Legrand et Astor Piazzolla, que nous avons traité dans une de nos émissions et à qui elle avait conseillé de ne plus écrire de quatuor à cordes, mais s'impliquer dans les tangos. C'est dire la qualité de cette femme qui avait un sens musical et un sens des personnes et qui ne jugeait que par l'aptitude musicale et par le talent de ses élèves en qui elle avait confiance. Elle aura eu parmi ses derniers élèves Émile Naoumoff, que nous écouterons tout à l'heure dans une œuvre de Lily Boulanger. Mais je ne peux résister à vous raconter cette histoire. Elle rencontre Émile Naoumoff qui a 8 ans, présenté par ses parents, qui viennent voir si Madame Boulanger, Mademoiselle, on disait à l'époque, veut bien prendre Émile comme élève. Il a 8 ans. Elle a, quant à elle, 83 ans. Et elle dit, oui, je vais le prendre, car elle en perçoit les dons. Mais elle dit, à une condition, c'est qu'il reste avec moi 10 ans. Écoutons parmi les quelques œuvres donc de jeunesse, puisque Nadia a fait le choix d'arrêter la composition, son œuvre, sa fantaisie pour piano et orchestre, qui avait été jouée par son ami et amant, le très grand pianiste Raoul Pugnot, qui malheureusement est décédé et l'a laissé bien seul, avec la musique comme principal compagnon. Nadia était donc née en 1887. Née en 1896, Lily, sa jeune sœur. Les parents sont de prestigieux musiciens. Son père est Ernest Boulanger et compositeur, a été Grand Prix de Rome. Et sa mère est née Princesse Raïssa Michevski, est une grande cantatrice russe. Ambiance musicale, environnement musical, connaissance du milieu musical, des compositeurs. Donc voilà deux sœurs qui baignent dans la musique et qui sont fortement soutenues. Nadia présentera le prix de Rome, échouera, elle aura un second prix. Sa sœur, plus fragile, elle aura une très courte vie, contrairement à Nadia, puisqu'elle va mourir en 1918, c'est-à-dire à 20, elle est née en 93, donc à 25 ans. Et une vie triste, une vie difficile, car elle était très malade, elle avait probablement la maladie de Crohn. Mais elle a eu un génie précoce et elle a écrit un certain nombre d'œuvres qui marquent l'histoire de la musique et du début du XXe siècle. Elle a connu Ravel, elle a connu Debussy, elle a aimé toutes ses musiques. Elle est donc dans la musique du début du XXe. Et commençons par écouter un nocturne qui a été joué soit pour piano seul, soit pour piano et violon, soit pour piano et flûte, soit pour flûte et harpe. Ici joué par l'élève de sa sœur Nadia, beaucoup de temps après, puisque c'est en 1970, le nocturne pour piano et violon. Le père de Nadia, Ernest, était Grand Prix de Rome. Nadia a échoué. Elle abandonnera la composition et deviendra la grande professeure que l'on sait. Lily, elle, présente une première fois le prix de Rome, mais doit quitter la ville car elle n'est pas en santé. Elle est fort malade et elle ne peut concourir. Elle l'obtiendra néanmoins en 1913, à 21 ans, avec une œuvre absolument magnifique, Hélène et Faust. Il y avait le Faust de Gounod, il y avait la Faust symphonie que nous avons écoutée dans notre émission sur Liszt. Il y a donc Hélène et Faust de Lili Boulanger, probablement son chef-d'œuvre, une cantate qui est un peu la forme d'un opéra. Écoutons cette œuvre absolument magnifique, avec des voix de l'époque, avec le phrasé de l'époque. On sent l'influence de Chabrier, mais on a déjà une musique très affirmée. Malheureusement, nous sommes en 1913, la France va rentrer en guerre. Les années vont être très difficiles avec beaucoup d'amis qui partent, qui meurent ou qui reviennent tout à fait diminués et bien malades. Et puis surtout Lily qui est malade, qui aura eu le temps d'écrire beaucoup de belles compositions, mais qui va mourir si jeune que nous ne savons pas ce qu'elle serait devenue. En tout cas, aujourd'hui, elle est beaucoup jouée, alors qu'elle a passé peut-être le XXe siècle un peu dans l'oubli. Et donc, écoutons Hélène et Faust, probablement son chef-d'œuvre.
Yeah.
Nous venons d'écouter Lili Boulanger dans sa cantate Faust et Hélène. C'était notre dernier morceau. Nous avions écouté de Clara Schumann le prélude et fugue numéro 1 par Hélène Boschy. Le thème et quatre des variations sur un thème de Schumann, toujours de Clara Schumann, par Claire Désert. Puis son concerto en la mineur, le début du premier mouvement par Karen Sung et le Panther Orchestra. Ensuite, trois œuvres de Marie Jaël, feuillet d'album, valse mélancolique numéro 1 par Alexandre Sorel, puis son premier concerto par Romain Descharmes et l'Orchestre National de Lille par Joseph Swensen comme chef d'orchestre. Enfin, les Sœurs Boulanger avec Nadia, sa fantaisie variée pour piano et orchestre par Daniel David Krelzamer et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Stephen Sloan, et de Lili Boulanger successivement, son nocturne pour piano et violon par Olivier Charrier au violon et Émile Naouneuf au piano, puis sa cantate, tout au moins un extrait, Faust et Hélène, avec Lynn Dawson, Bonaventura Bottone et l'orchestre de la BBC sous la baguette de Yann-Pascal Tortelier. Notre prochaine émission sera en lien, en projection, par rapport à Clara Schumann, puisque nous parlerons de Robert Schumann. À bientôt et passez de bonnes fêtes, malgré la période difficile que nous vivons. À très bientôt donc et à l'année prochaine.